Alors, on se lève. Vous me direz si je parle assez fort. On entend derrière? Je sais que vous avez beaucoup prié pour moi, pour que Dieu me donne une conviction concernant ou la fin ou la continuation de ces retraites bibliques qu'on a appelées des immersions bibliques. C'est pas simplement des retraites interconfessionnelles. On ne vient pas parce que on veut fraterniser simplement avec des églises. C'est pas interconfessionnel. C'est le camp Mahanaïm, qui veut dire la rencontre avec Dieu, comme plusieurs le savent, et je ne m'en vais pas le répéter. Nous avons fait des camps, qu'on a appelé justement camp Mahanaïm, ce lieu que Jacob a rencontré, où Jacob a rencontré les anges de Dieu, en deux corps, alors qu'il savait qu'Ésaü venait avec 400 hommes armés. Et 20 ans avant, Ésaü avait voulu le tuer. Alors il a eu peur. Et il a prié. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu deux cohortes d'anges venir auprès de lui. Et alors il s'est écrié spontanément, c'est le camp de Dieu. Et j'ai tellement aimé cela, on était en prière pour donner un nom à notre camp, à Cedar Lodge, que je me suis dit on pourrait donner vraiment ce nom de Mahanaïm, la rencontre avec les anges de Dieu. Eh bien, Nous avons eu ces camps pour les jeunes, et puis après, les moins jeunes ont demandé pourquoi je ne m'occuperais pas des personnes plus âgées. Mais on ne peut pas mettre dans un camp des personnes plus âgées. Et alors, on a eu ces débuts ici avec M. et Mme Obu qui m'ont soutenu, et nous avons pu louer cette maison que je connaissais depuis 1975, et qui était mise à notre disposition pour qu'on puisse se réunir comme le Seigneur le voulait. Mais voilà, les années passent. Et cette nuit, je me suis endormi plus vite que d'habitude et j'aurais voulu avoir la réponse avant de m'endormir. Mais je ne l'ai pas eu. Je me suis réveillé plus tard que d'habitude, ce qui ne semblait rien arranger. Mais les méthodes de Dieu, ce sont les siennes. Et tout à coup, je me suis dit, quand je vois ces personnes qui demandent d'être enseignées dans l'Écriture, est-ce que j'ai le droit de dire non? J'ai écrit tout un chapitre pour, sur ce sujet. Il n'est pas publié encore. Savoir dire non. Mais voilà que ce matin, j'avais dit au Seigneur, mais donne-moi un signe quand même, si je dois continuer. Et j'ai presque eu le signe que je devais arrêter. Parce qu'on est venu me dire que ce matin, j'aurais dit une grande hérésie, que dans un vidéo comme cela, on ne peut pas le changer, et que j'aurais dit dans cette phrase, si vous l'isolez, qu'est-ce que j'aurais dit? Puisque vous avez tous été suffoqués. Qu'est-ce que j'ai dit? Que l'évangile, non, que le levain, qu'est-ce que j'ai dit? Vous savez? Que l'évangile est une fausse doctrine. J'ai dit, je comprends.
Si on parle l'évangile,
si on prend le levain comme l'évangile, c'est une fausse doctrine. Et je vous ai dit que bien souvent, on entend des prédicateurs nous dire que l'évangile, c'est le levain, et qu'il faut remplir la pâte chrétienne de ce levain. J'ai dit ça, oui, mais laissez-le dans le contexte. C'est pas moi qui dis ça. Je vous dis que vous entendez cela dans certaines églises où on vous prêche que le levain, c'est l'évangile qui va transformer le monde. C'est ça que j'ai dit. Mais quand j'ai cru comprendre que j'aurais dit quoi? Qu'est-ce que j'aurais dit? Vous n'avez pas entendu ça? Alors, si je suis un faux docteur, c'est fini. Je vous annonce qu'il n'y a plus de retraite. Mais notre cher Jean a eu l'amabilité de venir me retarder dans mon dîner, mais pour me montrer heureusement ce qui avait été dit. Et quand j'ai vu ce qui était dit, si vous le laissez dans le contexte, il n'y a pas de fausse doctrine. Mais je dis que c'est vrai que dans des églises, on vous prêche ça. Que le levain, c'est l'évangile. Et c'est ça qui est faux. Vous avez compris ça? Tout vous est sûr? Parce que ça a été à un doigt que j'ai trouvé la sœur en disant, sœur Fleurette, c'est fini. Non, elle me fait encore confiance. Alors, elle a accepté de nous réserver, puisqu'il n'y avait pas d'autre possibilité, du 24 au 26 octobre et du 21 au 23 novembre. Deux, il y en aura encore deux. On verra. Et si ça continuait, eh bien l'année suivante, si on n'est pas auprès du Seigneur, on tâcherait de mettre en juin ou en mai, mais au début, pour qu'il y en ait une, que tout le monde voit le paysage au mois de juin, qui est tellement beau aussi. Alors ça suffit, on est d'accord?
Amen.
Vraiment?
Amen.
Et le prix? Hein? Mais bien sûr. Nous attendons toujours que la porte s'ouvre. Alors c'est là que nous en étions arrivés, que dans l'écriture, donc, il y a le retour en gloire du Seigneur, mais qui doit être précédé pour qu'il soit vu dans toute sa gloire, c'est-à-dire la tête glorifiée dans le ciel et son corps qu'il est venu former sur la terre par sa mort et sa résurrection. Et c'est avec ce corps complet, donc l'Église complète, parce que s'il ne prenait que l'Église d'aujourd'hui, elle serait bien petite, hein, mais c'est l'Église de tous les âges, et non seulement l'Église de tous les âges, mais les croyants décédés dans tous les âges, mais c'est aussi c'est aussi quoi? Les saints de l'Ancien Testament. Je vois ce que tu dis. C'est aussi tous les saints de l'Ancien Testament qui sont endormis dans la paix du Christ qu'ils attendaient, du Messie et qu'ils attendaient. Alors, le Christ glorieux, parce que la pensée de Dieu, c'est de réunir tout en Christ, eh bien, nous sommes tous ensemble. Et alors, ce que je vous signalais, c'était la promesse que Jésus avait faite aux Thessaloniciens, que cet enlèvement des croyants aurait lieu subitement à une heure où personne n'y pense, personne ne peut dire le jour et l'heure, et que cet enlèvement ne serait pas vu de tous. C'est pas le monde qui va voir cela. Jésus vient pour les siens et il enlève les siens. Et quelle image a-t-on donné de que le ciel peut nous apprendre au sujet de l'enlèvement? Qui est-ce qui voit l'étoile du matin? Ce sont ceux qui veillent. Et le Seigneur Jésus est appelé l'étoile du matin. Eh bien, voilà, vous pouvez ne pas y croire, vous pouvez préférer que le Seigneur tarde et passer par toute espèce de tribulation, mais nous croyons que dans les Thessaloniciens, il est bien souligné que le Seigneur va nous ravir, va ravir les siens de devant la colère qui vient. Donc, l'enlèvement a lieu avant que la colère se déchaîne sur la terre et qu'il n'y ait plus de place vraiment pour le croyant. Ceux qui veillent voient l'étoile du matin, puis ensuite, qu'est-ce qui apparaît? Le soleil de justice, qui est le retour en gloire du Seigneur. Alors, entre les deux événements, enlèvement subi dans la gloire, où l'un sera pris dans ce sens-là, enlevé, et l'autre laissé pour être jugé, le jugement des vivants, en cet événement et son retour en gloire, où allons-nous être? C'est la question qui se pose pour nous. Dans les airs? Dans la maison du Père. Et là, alors je ne peux pas élaborer beaucoup, là, nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ, non pas pour être jugé quant à nos âmes, puisqu'il a été jugé pour nous et que nous sommes sauvés, mais pour être examiné quant à nos œuvres. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie qui doit être à la gloire du Seigneur. Ça ne suffit pas à dire, ben maintenant je suis sauvé, j'ai accepté le Seigneur, mais à qui appartient ma vie? Lui m'a donné sa vie, et bien maintenant, ma vie lui appartient. Et chacun, nous aurons à répondre de ce qu'a été notre vie devant le Seigneur. On a appelé quelquefois le tribunal du Christ, ou le tribunal de Dieu, les promotions. Le Seigneur examinera nos vies, nos œuvres, ce qui a été fait vraiment pour lui et non pour nous, et il donnera les récompenses qu'on a appelées les couronnes. On en a cité quatre. Mais tout cela aura lieu où? Dans la maison du Père. Ce sera bien le moment d'apprendre à connaître la maison du Père. Mais qu'est-ce qui vous plaira le mieux, d'être avec Jésus ou bien de recevoir la récompense? Comment? C'est d'être avec Jésus, c'est sa présence. Comprenez-vous? Alors, nous serons avec Jésus. Vous allez vous ennuyer? Vous trouvez que c'est plate? D'être dans la maison du Père? Non, nous serons avec Jésus. Et quand tout sera réglé, je ne veux pas entrer dans les questions du tribunal du Christ, parce que il y en a toujours qui ont peur, hein, et qui nous disent, mais alors, toute notre vie sera manifestée. Oui, mes amis. Et c'est bien le moment qu'on prenne conscience que notre vie sera manifestée et que nous verrons toutes nos gaffes, que nous verrons tous les défauts que nous avons eus, mais pas pour être jugé, pour qu'on apprenne la grâce. Si tu es là, ne te glorifie pas, tu n'es vraiment pas grâce. Mais il est dit que nous connaîtrons alors comme nous avons été connus. Et ça ne sera pas toujours glorieux, c'est vrai, mais on aura une paix. Mais on a dit souvent que tous les vases seront remplis. Il y a des vases de différentes grandeurs, et la capacité du vase, elle se forme maintenant. Dans la mesure où vous contenez Christ sur la terre, vous le contiendrez là-haut. Comprenez-vous? Dans la mesure où vous avez brillé pour Christ sur la terre, l'éclat de l'étoile s'en répandra là-haut, parce que nous éclairerons. Alors, que le Seigneur nous parle. Un petit vase, si j'en avais un ici, j'en prendrais un pour vous le montrer, je le remplis. Je prends un grand vase, je le remplis. Est-ce que je peux encore en mettre dans le petit vase? Non. Tous les vases seront remplis. Mais on ne peut plus changer la capacité du vase. Comprenez-vous? Mais c'est pour seulement vous souligner la valeur de votre vie. Vous n'avez qu'une vie pour agir pour le Seigneur. Et encore, agir dans le Seigneur. Les œuvres qu'il nous a demandé d'accomplir, ce n'est pas pour qu'on soit sauvé. L'œuvre qui nous a sauvés, c'est la sienne. Mais maintenant, ce que le Seigneur voudrait, eh bien, c'est que nous puissions lui consacrer notre vie à accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Chacun de nous, nous devons rechercher dans le Seigneur quelle est l'œuvre que tu veux que j'accomplisse aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me demandes pour aujourd'hui? Est-ce que je veux faire aujourd'hui ta volonté? C'est ce que faisait le Seigneur. Tous les matins, il était devant son Père pour accomplir la volonté de son Père. Il disait, c'est cela ma nourriture, c'est cela mon petit déjeuner. Hein. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Mais quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans beaucoup d'églises, quelle qu'elle soit, on est en train de se demander de ce qu'on pourrait faire pour le Seigneur. Mais où trouvez-vous ça dans l'Écriture? Votre initiative, qu'est-ce que je peux inventer de bien pour le Seigneur? Ah, vous verrez ce que je serai capable de faire. On est tellement encore des mondeurs, on a été tellement imprégnés par le monde, on se convertit en 2-3 minutes, parce qu'on a des plans de conversion, et puis maintenant, alors, eh bien, on veut faire les choses tout de suite pour le Seigneur, avec les dons naturels que nous avons reçus. Moi, j'y crois pas. Je sais que Dieu peut employer vos dons naturels pour certaines choses, hein. Et bénissez Dieu, reconnaissez-le, il vous a donné des dons naturels. Mais, on sert Dieu avec quels dons? Les dons spirituels. Et c'est pour ça qu'on n'est pas crevé. Parce qu'il nous donne sa force. Il nous renouvelle d'heure en heure et de jour en jour. Alors demandons au Seigneur, montre-moi vraiment ce que tu veux. Quel est ton plan? Moi j'avais un plan après ma conversion. Et le Seigneur a bouleversé tout cela. Il m'a dit, mais moi aussi j'en ai un. J'en ai un pour toi. Et ça ne correspond pas. Alors, est-ce que moi, je m'en vais essayer de faire les choses pour Dieu? Oh, c'est pour ça qu'on est tué. Quand on essaye de faire par nous-mêmes les choses, on n'arrive plus. On est à bout de souffle. Mais si on dit au Seigneur, donne-moi vraiment d'accomplir ce que tu as préparé. Donne-moi des yeux qui voient, parce que vous avez vu, on a lu, hein. On a des yeux, mais on ne voit point. On se demande, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le Seigneur? Et c'est tout simple. Fais ce que le Seigneur te montre. Ça commence en petit. Et ça commence dans la maison, dans la famille, avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, avec les voisins. Le Seigneur vous montre ce que vous avez à faire. N'essayez pas d'accomplir des grandes choses. C'est un verset qui m'a marqué. Je vous l'ai dit et je me répète encore. Si Dieu me prête encore vie un peu, je vais mettre à côté de ma Bible, dans la marge, des dates. Et il y en a une de ces dates, c'est encore dans Jérémie. Vous voyez que je reviens toujours à Jérémie. Et toi, tu rechercherais de grandes choses? Ne les recherche pas. J'avais 17 ans quand ce verset m'a été donné. Et toi, tu rechercherais de grandes choses. On est plein d'ardeur. On a été converti après 20 ans et demi. On a déjà des enfants spirituels. À 14 ans, j'ai vu des âmes se donner au Seigneur. Je me souviens de ces moments où on était en prière ensemble, où on confessait le Seigneur dans un temps. On m'a donné des responsabilités très vite. Alors, évidemment, on a tout un chemin. On a un tas d'idées pour le Seigneur. Puis, quand je priais tout d'un coup, je vois tout d'un coup une prison devant mes yeux, en priant. Et alors je me dis, mais c'est drôle cette prison. Et puis ça revient chaque nuit. c'était dans un coin retiré de la suite. Et un jour, j'en ai conclu que je devais y aller, alors j'y suis allé. J'avais pas de papier pour pouvoir entrer par le ministère de la Justice. Et puis, le directeur, contrairement à toute attente, eh bien, il m'a reçu et il m'a donné un rendez-vous pour que je vienne le dimanche pour faire une conférence à ses prisonniers. Mais c'est lui qui avait préparé cela. C'est pas les hommes. Ou bien quand vous allez, je faisais l'évangélisation de tout un village seul, et puis après le Seigneur me montrait un pas de plus, il ne monte pas tout à la fois. Il m'avait montré que je devais évangéliser un village vieil, pas d'église. Alors, je suis allé, j'ai fait tout le village. J'ai appris à connaître tout ce monde, mais ensuite, j'avais à cœur de leur parler à tous. Et je me suis dit, comment les rassembler? Alors, ben, on a encore une petite intelligence, puisqu'on est allé à l'école, au moins primaire, et même secondaire, mais alors on y va, et puis je vois le directeur, je lui dis tout simplement ce que je venais de faire, j'ai visité tout votre village, j'ai distribué des traités partout, et maintenant j'aimerais pouvoir leur parler d'évangile. Bien. Bien écoutez, pour que vous n'ayez pas besoin de repasser dans le village, je m'en vais donner un billet aux instituteurs et aux institutrices qu'ils annoncent votre conférence ici, à telle heure. Je dis, mais et combien ça me coûte? Oh, mais je vous donne ça gratuitement. On a un Seigneur ou on n'en a pas. Et vous savez, le Seigneur, il est aussi près de ceux qui dirigent le monde ou les écoles. Il est partout, notre Seigneur, et nous devons le voir partout. Ce sont des choses, j'avais aucun moyen. Mais quand je rentrais là où un frère me logeait, et il était cantonnier, on se mettait à genoux, je lui racontais ces choses, et puis on bénissait Dieu, puis il me disait, comme tu as raison d'avoir commencé si jeune, moi j'ai perdu ma vie, j'ai 60 ans, puis je ne peux que casser les cailloux. Mais il en a cassé aussi pour moi, par la grâce de Dieu. C'est merveilleux de voir les œuvres que Dieu a préparées. Mais elles sont simples. Elles sont simples. Et je suis devenu, finalement, l'ami du directeur de cette prison. Et puis, après cette prison du canton de Berne, j'ai eu la prison du canton de Fribourg, qui est un canton catholique. Et puis, la prison du canton de Vaud, qui était une prison vaudoise. Et le Seigneur ouvre les portes. Et puis après, ce fut les uns et tout ce que vous voulez. Des œuvres que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions. Et je crois que je vous ai raconté la dernière fois comment on a pu, par la grâce de Dieu, en 1939, fonder un foyer pour tuberculeux à Lesins, alors qu'il y avait 3000 malades, hein. Et qu'une demi-heure après avoir reçu cet ordre, en sortant du Sana, eh bien, j'avais la maison. Tout avait été donné par la grâce de Dieu. Nous avons un Dieu qui ne fait pas défaut. Est-ce que vous le croyez? Et surtout, ne prétendez pas que nous sommes des exceptions. C'est pas vrai. C'est pour moi, je le dis avec humiliation, quand je reviens au Seigneur de tout mon cœur, je sais comment il agit. Mais, si je m'éloigne, eh bien, je n'ai plus la même présence, c'est vrai. Et alors, on s'en humilie, parce que quand on a joui de la présence de Dieu, on ne peut plus s'en passer. Et c'est pour ça, alors, on se confesse, on lui demande pardon, et puis le Seigneur nous aide. Alors, nous arrivons donc à croire que, ayant été enlevé subitement, alors que dans le monde, il se passera toutes ces choses dont il est question dans l'Apocalypse, et que nous verrons du haut du ciel avec le Seigneur, avec les saints glorifiés et ressuscités, eh bien, l'heure que nous attendons tant, alors que les Juifs seront à l'extrémité, persécutés de toutes parts, que toutes les nations rassemblées seront rassemblées contre Israël, eh bien, le Père dira à son Fils, psaume 2, demande-moi quoi? Les nazis. N'est-ce pas? Pourquoi s'agissent les nations et les peuples, me disent-ils, la vanité, les rois de la terre se lèvent, et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son loin, rompons leurs liens, jetons loin de nous leur corps, celui qui habite dans les cieux se rira d'eux, le Seigneur s'en moquera. Voilà les plans du monde. Alors, il leur parlera dans sa colère, et dans sa fureur, il les épouvantera. Et moi, j'ai oué mon roi sur Sion. Il est déjà oué le roi, hein, c'est le Seigneur. La montagne de ma sainteté. Quand il est venu sur la terre, on l'a couronné d'épines, mais il est oué sur Sion. Je raconterai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, et pour possession, les bouts de la terre, tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, soyez intelligent, etc. Donc, voilà ce qui va arriver. Le Seigneur va dire à son père, maintenant, l'heure est venue. Et cette heure que seul le père connaît, il sera d'accord, hein, et ce sera le moment de faire apparaître le Fils dans la gloire. Alors, nous passons sur les chapitres de l'Apocalypse, jusqu'où nous retrouvons l'Église pour la première fois. Au chapitre 19, après la destruction de la fausse église de Babylone, je ne peux pas vous parler de ce qui se passera sur la terre, lisez l'Apocalypse et vous verrez ce qui s'y passera. Après ces choses, jouit comme une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel, disant « Alléluia, le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu, car ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée, c'est donc Babylone, la fausse église, qui corrompait la terre par sa fornication, et il a vengé le sang de ses esclaves, le réclamant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au ciel des siècles. Elle est 24 anciens. Et les quatre animaux, qu'on a vu dans le chapitre 4 et 5, tombèrent sur leurs faces et rendirent hommage à Dieu qui était assis sur le trône, disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, et vous qui le craignez, petits et grands, et jouis comme une voix d'une foule nombreuse, et comme une voix de grandes eaux, et comme une voix de fort tonnerre disant « Alléluia !» Car le Seigneur est entré dans son règne, donc il y a un règne qui doit venir, hein, un règne dans lequel le Seigneur doit entrer, et au psaume 2, Dieu est d'accord de lui donner ce règne, il n'y a que lui qui aura ce règne. « Demande-moi et je te donnerai le règne. » Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Cet agneau que nous avons vu dans le chapitre 1er et dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, on le retrouve, donc l'histoire de l'Église recommence ici, et donnons-lui gloire. Les noces de l'agneau sont venues. Et sa femme, c'est donc l'Église, s'est préparée. Et quand est-ce qu'elle se prépare? En se laissant façonner par le Seigneur. Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont la justice des saints. C'est pourquoi je vous ai fait lire dans Éphésiens, qui nous montre, n'est-ce pas, qu'elle est comme une femme préparée pour son mari. Alors, là, ce sont les justices des saints. Et il me dit, écrit, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Et c'est là que vous voyez qu'il y a donc l'épouse et qu'il y a les invités. Et ce que nous pensons, c'est que les invités, c'est aussi tout Israël, tous ceux qui auront été rachetés par le témoignage des Juifs. Et il me dit, ce sont ici les véritables paroles de Dieu. Je tombais devant ses pieds pour lui rendre hommage, et l'ange me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Quand on est frère de Jésus, qu'est-ce qu'on doit avoir? Le témoignage de Jésus. Rends hommage à Dieu, car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Donc nous devrions être versés dans l'esprit de prophétie. Nous devrions connaître ces choses. Et il est dit que ces choses sont les véritables paroles de Dieu. Je ne vais pas apporter mes paroles. Ce sont des véritables paroles de Dieu. Et je vis le ciel ouvert. Voilà, on y arrive au port. Et je vis le ciel ouvert. On a vu une porte ouverte ce matin, mais maintenant, c'est le ciel qui est ouvert. Et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus, appelé fidèle et véritable. Qui est? C'est lui. C'est lui. Et il juge et combat en justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête, il y a plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang. Parce que quand il revient pour juger, comme nous le voyons dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, pour juger toutes les iniquités que les croyants ont dû supporter. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Qui sont ces armées qui sont dans le ciel? C'est l'Église. C'est tous les croyants. Ils le suivent sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, parce qu'ils ont été changés comme le Seigneur, en voyant le Seigneur, ils sont venus comme lui, blancs et purs. Et une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations, et lui les pètera avec une verge de fer, vous retrouvez la verge de fer du psaume 2, et lui foule la cuve du vin de la fureur, de la colère du Dieu Tout-Puissant. Vous savez, c'est pas des pages que vous devez arracher, mais c'est des pages que vous devez méditer. Quand vous voyez ce qui se passe dans ce monde, eh bien la colère de Dieu est en train de devenir une vraie fureur. Et il y a un moment donné où la fureur est telle qu'elle éclate, et c'est le jugement. Il y a eu le jugement du déluge, il y a eu le jugement de Sodome et Gomorre, et il nous dit qu'au temps où il apparaîtra en vol en gloire, il en sera comme au temps de Sodome et Gomorre et comme au temps de Noé. Et il a un vêtement, il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et je vis un ange se tenant sous le, dans le soleil. Et cria à haute voix disant, à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, venez, assemblez-vous au grand souper de Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, la chair des chiliards, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui sont assis dessus, et la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Vous voyez ce qu'il y aura sur la tête. Et je vis la bête que nous avons dans le chapitre 13 et dans le chapitre 14. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées assemblées pour livrer le combat contre celui qui était assis sur le cheval est sur son armée. C'est l'Armageddon, ça, que vous trouvez au chapitre 17. Et la bête fut prise. Et le faux prophète, dont nous lisons beaucoup dans la deuxième épître, qui était avec elle et qui avait fait devant elle des miracles par lesquels elle avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vite dans l'étang de feu, embrasés de tout, et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, c'est qui? Le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans, c'est écrit. Et il le jeta dans l'abîme et l'enferma, et il mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que 1000 ans puissent accomplir. Ça veut dire qu'il y aura 1000 ans de paix. Et après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Dieu va donner à ce monde, non pas l'ONU, mais Dieu, un temps de paix qui va durer 1000 ans après ses jugements. Il va donner un temps de paix à ce monde. Et il va mettre pour diriger ce monde ses hommes à lui. Comme autrefois il avait ses Joseph et ses Daniel. Eh bien, ceux qui auront été dans la maison du Père seront envoyés pour administrer ce qui sera sur la terre le peuple terrestre. Et je vis des trônes. Et ils étaient assis dessus. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus. Parce que quand nous serons avec Jésus dans l'église, sur la terre ce sera le temps d'Antichrist, et un temps de persécution pour ceux qui se convertiront au Seigneur qui n'avaient pas eu la possibilité de le recevoir pendant le temps de la grâce. Et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête et à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, donc il faudra savoir dire non au risque de sa vie. Et il y en a qui mourront. Et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, il y a des morts qui restent dans la mort, mais il y a les vivants qui sont ressuscités, des morts qui sont ressuscités. C'est ici la première résurrection. On vous a parlé de la première et de la dernière résurrection. La première résurrection est fait partie donc d'un ensemble où il y a plusieurs endroits où il est parlé de résurrection. Alors, ce qui compte pour nous, c'est pas le moment de la résurrection, mais c'est d'être ressuscité. Le premier acte de la première résurrection, qu'est-ce qu'il a connu? Le Christ, hein? Chapitre, il y a les rangs, chapitre 15 de la première aux Corinthiens. Christ est ressuscité. Puis, ceux qui sont du Christ à sa venue. C'est qui? C'est l'Église. Comprenez? Ceux qui sont du Christ à sa venue. Ils sont ressuscités premièrement, puis nous les vivants, enlevés avec eux. Et puis, alors, étant dans le ciel, loin de tout danger, mais sur la terre, la vie continue, mais alors, il n'y a plus de sel sur la terre, c'est la corruption, et c'est la violence aussi qui s'établit comme au temps de Noé. Et c'est là qu'il est dit, bienheureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir. Et il y aura donc, à ce moment-là, au début du règne, une résurrection qui fait partie de la première résurrection dont Christ est la première résurrection, puisqu'il est la résurrection. Nous sommes de la première résurrection, puisque nous ressuscitons au moment de sa venue. Mais ils seront sacrificateurs du Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans, n'est-ce pas? Ils seront avec lui, nous participerons à son règne. Comme il a bien été dit, si vous souffrez avec lui, vous régnerez avec lui. Mais si vous ne voulez pas souffrir, eh bien il n'y a pas de règne non plus. Et quand les 1000 ans seront accomplis, voilà, c'est la dernière épreuve. Satan sera délié. Il faut qu'on sache que l'homme est incurable. Quand les 1000 ans seront accomplis, après avoir connu 1000 ans de paix et de prospérité, et j'aurais aimé que vous puissiez avoir ce petit livre qui, que je vous ai montré, je n'ai pas ici, sur le millénium, hein, qui vous rappelle tous les textes de l'Ancien Testament sur le millénium et qui dépeignent ce temps comme un temps absolument merveilleux où même les animaux auront changé. Alors, eh bien, maintenant, nous terminons parce que le temps est venu. Où en étais-je? Sept, hein? Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, ce sont des noms symboliques, pour les assembler pour le combat. Eux dont le nombre est comme le sable de la terre, de la mer. Vous vous rendez compte, pendant les 1000 ans, il y a des gens qui seront soumis par crainte de la mort, hein. Ils seront soumis au Christ. Mais quand ils pourront se révolter contre Christ, après avoir eu 1000 ans de paix, 1000 ans de prospérité, ils se révolteront et ils monteront contre la cité bien-aimée, mais immédiatement le feu du ciel les dévorera, tombera sur eux, et le diable qui les avait égarés fut jeté dans les temps de feu et soufre, qui est la seconde mort, avec le faux prophète. Et c'est là que se trouve le grand trône blanc et la fin du monde. La fin du monde vient quand? Après les 1000 ans. C'est après les 1000 ans que vient la fin du monde. Et à ce moment-là, vous avez au verset 12, « Je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône. » Ils sont donc ressuscités. « Et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres et selon leurs œuvres. Et la mer rendit ses morts qui étaient en elle, le Hadès rendit ses morts, et ils furent jetés chacun dans les temps de feu et tout. Et la mort et le Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est ici la seconde mort, les temps de feu. Et si quelqu'un n'était pas écrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Et c'est après, mais ça passe pour une autre chose, eh bien, que Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est les derniers chapitres que nous pourrons examiner, mais nous terminons ici. Dieu notre Père, que ta grâce nous soit donnée par ton esprit pour que nous puissions continuer d'avoir soif, d'en savoir davantage, et que nous soyons familiers avec ta parole. Nous savons qu'il y a des cuisinières qui sont tellement familières avec leurs livres de cuisine, qui savent apprécier de bons repas. Donne-nous, à notre tour, d'être tellement familiers avec ta parole, que nous puissions avoir aussi une parole de grâce pour tous ceux qui nous rencontrent et que nous sachions aussi apporter des repas à ceux qui ont faim et soif d'autres choses que de la vanité de ce monde. pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.
Est-ce qu'on peut poser des questions?